Chers amis, shalom, vracha, boker, or, b'shem, hachem, naase, v'natzlech. Un sujet qu'on me demande, donc je viens de voir ici, thème, en ce mercredi 17 avril et 9 du mois de Nissan, comment ramener nos frères juifs à la Torah et aux mitzvot, donc leur faire faire teshuva, les ramener vers Hachem, quand ils sont très éloignés, et ainsi, donc, précipiter la venue du Melech à Mashiach. Je suis redemandé par Shmuel Benichou, donc Samuel Benichou, pour le retour de tous les otages en bonne santé, protection, réussite de tous nos soldats et du peuple d'Israël avec l'aide d'Hachem, que HaKadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hachem, Berechot Obechol HaSherlo, merci de penser au peuple d'Israël, Be'ezrat Hachem, à cette situation, Be'ezrat Hachem, que Dieu mette un terme à tout ça, qu'il se dévoile et que la vérité sorte dans le monde, les Chaim Tovim ou Shalom, une grande refouach Lema pour tous les malades, une grande réussite pour Samuel Benichou, et on commence tout de suite ce shiur. Alors, vous savez que la Torah, à propos de la paracha, à propos de la Gada de Pessah, nous dit Arba Banim Dibra Torah. Et bizarrement, on parle de quatre caractéristiques d'enfants. Chat Racham, donc il y a celui qui est dans la Torah, qui est le mitzvot, et qui a des réponses à tout, parce qu'il est Talmid Racham, il est investi de Torah, il est vraiment dans la pratique. Chat Racha, et donc il y en a un qui, par contre, lui, il fait rien du tout. Ça, c'est les rabbins qui ont écrit. Il est toujours à regarder que le mal chez les religieux, c'est ça un vrai rachat. Toujours à regarder ce qui va pas chez les religieux, toujours en train de trouver du mérite à ce que lui fait et jamais aux autres, toujours dans la critique, toujours en train de piquer, toujours en train de charrier. C'est le rachat, il est à table. Et puis il y a celui qui est tam, donc celui qui est intègre, il est là, il écoute, il est à l'écoute, il est présent, il est sympathique quelque part, mais il faut quand même être présent pour lui. Il est réceptif. Et puis, il y a celui qui ne s'est même pas posé de questions. Il est tellement dans les réseaux sociaux, tellement assimilé qu'il n'a plus de cerveau pour lui-même, tellement il ne réfléchit que parce qu'on lui donne comme information. Donc, il est formaté à exprimer tout sauf sa propre personne qui ne sera jamais développée parce qu'il n'existe pas de par lui-même. Et là, il y a marqué « Ad petachlo », donc ce sera à toi de lui ouvrir la bouche. En d'autres termes, nous avons quatre personnages que nous retrouverons à chaque génération au sein des enfants d'Israël. Le sage, l'impie, l'intègre, le simple, si vous préférez, et celui qui ne s'est pas posé de questions, celui qui ne se pose même plus de questions, il vit sa vie telle qu'elle est, et le lendemain sera fait de ce qu'il sera fait. Et la Torah nous donne des solutions pour chacun d'entre eux. Rama ou Omer, Rachama ou Omer, Tam, et Mishéno Yodalish Ol, c'est-à-dire que on trouve des issues pour chacun d'entre eux. Mais ils ont tous un point commun, qui leur donne un mérite énorme, y compris le rachat. C'est que au Seder de Pessah, ils sont tous là. Même celui qui fait pas Shabbat, même celui qui mange pas kasher, ils sont quand même présents à la table de Shabbat. Contre ces quatre enfants, nous avons quatre verres de vin, comme vous le savez tous. Et ces quatre verres de vin sont d'une certaine façon là pour les rapprocher. Ils représentent beaucoup de choses, les quatre expressions de la libération qu'on retrouve dans la Torah, et bien d'autres choses, et bien d'autres choses, et bien d'autres choses. Seulement, les quatre verres de vin correspondent aussi aux quatre banim, Shidibra, Alehem, Torah. C'est-à-dire qu'ils représentent aussi les quatre caractéristiques. Mais on a un minag. Et le minag consiste à mettre une coupe de vin de côté, Bezrat Hashem, pour un cinquième enfant. Et pourquoi ce vin n'est-il pas sur la table, selon la tradition juive? Eh bien, parce qu'il y a aussi un enfant qui est hors jeu. Lui, il est carrément en dehors de la fête de Pessah. Il ne fait pas Pessah. Bizarrement, ce matin, quelqu'un m'a demandé s'il avait le droit de vendre son chametz, le chametz d'un juif, qui est avec une non-juive et qui, elle, donc, va manger du chametz à la maison. Et il m'a posé la question, est-ce que je peux quand même lui vendre son chametz? En le prévenant, en lui disant, voilà, je vais vendre ton chametz. Je lui ai fait attention, parce que si tu lui vends son chametz, oui, tu peux lui vendre. Mais si lui, il va le manger, donc il va vendre un chametz qui va, non seulement il va manger chametz, mais il va voler du chametz qui a été vendu. Donc, ce serait compliqué. Demande-lui s'il compte faire Pessah ou pas. Il m'a dit, oui, c'est une bonne question, je vais lui demander. Et là, je me suis dit, mais mince, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sera même pas présent à la table de Pessah. Et malheureusement, après 2000 ans, c'est un petit peu une cause et effet justifiée, normale, malgré tout. C'est qu'il y a des Juifs qui ne seront même pas présents à la table de Pessah. Il y a malheureusement, peut-être, au sein du peuple d'Israël, des absents à la table. Et ces juifs-là, on a une solution pour eux. Cette solution, dans la Gada de Pessah, ce verre, dans sa tradition, selon certaines explications, c'est le vers du prophète Eliyahu Hanavi. On le met de côté. Pourquoi? Parce qu'on espère que Be'ezrat Hashem, le prophète Eliyahu qui ramènera le cœur des enfants au cœur des pères, qui ramènera tout le monde à la raison, quand viendra la Géoula, il y aura un tel éveil de vérité sur terre, il y aura une telle présence divine, il y aura une telle évidence qu'on n'aura même plus besoin de travailler la Emouna. Tout sera devant nous. Ramènera le cœur des fils à ceux des pères et ceux des pères à ceux des fils. Alors de qui est-ce qu'on parle? Vous savez qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de conflits familiaux. Énormément de conflits dans les familles. Les belles filles qui ne parlent pas aux belles-mères, dit la Gemara, dans saute à même tête, comme vous le savez, on en a parlé et reparlé, il y aura des problèmes entre... Comme une maman hier me racontait que son fils de 19 ans lui a mis une grande claque, il était énervé à ce qui paraît, donc il lui a mis une claque. Shem Shmor Virachem, ça arrive en France, ça arrive en Israël, ça arrive aux États-Unis, ça arrive dans tous les pays, hein. C'est pas relié qu'ici ou ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une paix des familles. Et vous savez qu'on souffre particulièrement beaucoup plus des gens qu'on aime que de ceux pour qui on est un peu indifférent. Et ainsi donc, le cinquième vers, c'est un vers qui vient compléter les quatre autres vers. Parce qu'on pourrait être « Chacham, Racha, Tam, Sheno, Yodalish, Ol » quatre façons d'exister, mais qui te dit qu'on vit dans la paix? C'est très compliqué de vivre, d'exister, de cohabiter dans une paix quand on est totalement opposé et à l'idéologie et à la façon d'exister de l'autre. On n'est pas matim, chacun chez soi. Donc c'est compliqué. « Viens, Lyonoui, Zacholetov » comme c'est marqué. Moshe a été le seul qui a été capable de réunir tous les enfants d'Israël sous une seule déa, d'être capable de tous aimer, d'être capable de tous nous respecter, d'être capable de tous vivre ensemble et de s'apprécier, ne serait-ce que se dire bonjour. Des fois, on peut même en famille passer l'un à côté de l'autre et personne ne va dire bonjour l'un à l'autre. Il n'y a pas besoin d'être un ennemi d'Israël pour pas qu'on se dise bonjour entre nous. On le fait très bien aussi quand nous avons des conflits barricadés dans des orgueils ou des raisons d'être, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je le vois autour de moi, c'est aujourd'hui il n'y a plus de problème de s'ignorer, ça veut dire que la personne est encore vivante et comme si tu l'enterrais vivant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans cette génération de laisser une personne pleurer à la maison ou de ne pas tenir compte de son existence, comme j'entends dans les couples, ta femme elle pleure, toi tu t'en vas, pas de problème, tu prends ta voiture, tu mets la musique et elle pleure. Très bizarre ce qui se passe dans ce monde, très très bizarre. Mais bon, ce qui paraît. Il y a marqué que Dieu changera ses cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc, la première réponse que nous avons justement dans la Gada Pessah, c'est que, eh bien, si on n'a pas réussi, par toutes les méthodes qu'on va essayer d'expliquer dans ce chiour, à ramener nos enfants à la raison, au judaïsme, à la table de papa, Avinu Shebashamayim, eh bien, il ne faut pas s'inquiéter malgré tout. Pourquoi ? Parce que le rôle du Mashiach, il faut bien qu'il fasse quelque chose, c'est de ramener justement les exilés. Alors il y a les exilés géographiques et il y a les exilés de l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin, mais en réalité, ils ne sont même pas à la table de Shabbat, de Yom Tov, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot. Ils ne sont pas là. Ils sont même plus capables d'être réceptifs qu'un jour ils mourront et qu'ils rendront des comptes, que la vie continue après la mort, que la Torah est vraie, que le judaïsme, ce n'est pas facultatif. Ils sont même plus aptes de comprendre l'importance de cela. Ce matin, j'étais avec un merveilleux garçon avec qui je me suis assis pour boire un café. Un petit tzadik sympathique. Puis je me suis rendu compte qu'à travers sa chemise, il n'y avait pas de tzitzit katane. Alors j'ai hoché la tête, il m'a dit « Il y a un problème ?» Je lui ai dit « Non, j'ai pas de problème, j'ai de la peine pour toi. » Il m'a dit « Pourquoi ? Pourquoi vous avez de la peine pour moi ?» Je lui ai dit « Parce que je vois que tu n'as pas de tzitzit katane. »« Ah ouais, pour moi c'est dur, c'est dur. » Si je te donnais 1000 euros par jour pour que tu le portes, tu le mettrais ? Il a rigolé. Je lui ai dit, tu sais combien de salaire Dieu te réservera parce que tu portes le tzitzit sur toi. Une fois qu'il est sur toi, moi j'en ai un depuis que j'ai fait tchouva, je le sens jamais. Je change tous les jours, tous les deux jours, mais je sens jamais que j'ai un tzitzit katan. Mais tu sais quelle mitzvah c'est quand tu te déshabilles et que tu vois ce vêtement de juif que tu as sur toi. C'est tellement simple, tellement bête, tellement pas shoot. Il n'y a pas d'effort une fois que c'est acheté, il est à toi à vie. La chen bezrat Hashem, ishtabar vitale, shmolad, shalakadosh baruch hu. Si on n'y arrive pas, nous, il ne faut pas vivre dans le désespoir. Pourquoi? Même si tu es un juif qui est au plus profond du profond des trous de l'assimilation, il y a de toute façon le joker de l'histoire, le Mashiach, Eliyahu Zacholetov, viendra ramener ce verre sur la table du Seder de Pessah. Et c'est pour ça qu'on met ce verre de côté, on remplit cette coupe, on la met de côté en espérant que Bezrat Hashem viendra la Géoula finale avec ce cinquième fils qui n'est pas présent à la table de Pessah, mais que Dieu nous promet que la joie de toute façon ne pourra pas exister ni pour nous en tant que parents, ni pour Dieu en tant que créateur, s'il n'a pas réussi à ramener tous ses enfants. Et c'est pour ça qu'un des points les plus explosifs de ces dégueulottes, j'ai prévu d'ailleurs un cours pour cela à partager avec vous, magnifique, c'est qu'un des points, c'est qu'à la première Géoula, 80% sont morts. À la dernière Géoula, on sera tous présents. Sinon, ce n'est pas une réussite. Même si le Marsha dit dans Masrat Shabbat qu'il y aura aussi un tri qui va se faire à la fin des temps, ce n'est pas la DA de tous les autres, comme le Rabbi qui dit que tout le monde sera présent. On verra tous. Sinon, si c'est la fin pour l'éternité, alors ça doit finir avec une excellente victoire pour le Créateur du monde et pour le peuple de Dieu, Am Israël. Ceci étant, quand on a des enfants qui se sont éloignés, comment les ramener? Il y a le côté un petit peu psychologique qui intervient. La question, c'est de savoir pourquoi ils ont quitté le chemin de la Torah. Vous savez combien de gens ont fait des écoles juives, combien de gens avaient des parents religieux, et aujourd'hui, j'en connais pas mal autour de moi, qui ont des parents avec la barbe, le père, hein, bien sûr, la kippa, et puis t'as la mère avec le kissouille, et puis la fille qui a une petite jupe, et qui sort le soir avec des garçons, mais cochi, elle mange cachère, ou le garçon qui ne met plus de kippa, qui met plus cette filine. Il y a de tout. Dans le peuple d'Israël, on est un peuple diversité, mais la question c'est pourquoi? Alors j'ai entendu beaucoup de choses dans ce domaine. J'ai une éducation beaucoup trop rigide, beaucoup trop dure, beaucoup trop dictaturale, sans vie. C'est une Torah où il n'y avait pas de chance, c'est une Torah où il n'y avait pas de compréhension, c'est une Torah où il n'y avait que de la critique. Tu n'es pas bien, tu n'écoutes pas, tu ne seras jamais rien dans la vie, tu vas au Géhinam, je ne voudrai même pas de toi. Rien qu'on frappe, on frappe, on frappe, et à force de frapper, on dit bah, écoute, puisque je suis si inadapté à tellement de valeurs spirituelles, eh bien je quitte le bateau. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on se doit de faire extrêmement attention. Car si je veux arranger un avenir, je dois comprendre quel était le problème de la racine. Parce que ce que je veux faire, c'est déplacer le problème, et non pas l'arranger. Donc Bémet, quel était le programme qui a été mis en application au niveau de la fissure qui s'est créée dans l'âme pour avoir quitté la Torah, parce que la Torah, c'est un monde de vie, de soleil, on ne peut pas quitter la Torah. Celui qui a goûté vraiment à la Torah, il ne peut pas la quitter. Il ne peut pas la quitter. La deuxième chose, eh bien, la Gemara nous donne des exemples. Qu'est-ce qu'aurait pu faire quitter une âme pure, une âme qui a grandi dans la Torah, le judaïsme? Parce que, bien sûr, s'il n'a pas grandi dans la Torah, le judaïsme, que les parents eux-mêmes vivent de façon assimilée, mariage mixte, qui eux-mêmes ne mangent pas cachère, on ne peut pas attendre grand-chose non plus des enfants, quoique il y a aussi des cas où ils viennent d'eux-mêmes à la teshuva. Mais c'est évident que l'éducation, ce qu'on va apporter, va jouer un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Il y a des fois des chocs émotionnels, comme par exemple le 7 octobre, qui pourrait ébranler certaines personnes. Où était Dieu? Je me souviens que quand le saint vénéré Rabbi de Lubavitch a quitté ce monde, ça avait fait un tollé dans le monde. Mais on avait dit que c'était lui Machar, jamais il tomberait malade, jamais il mourrait, et puis il va se relever, on attend, allez! Et beaucoup de gens sont tombés. J'ai connu moi une personne personnellement qui était Chabad à l'époque, au boulevard Beaumarchais. J'habitais au 87, il habitait au 89. Et la barbe, le chapeau, et quand est mort le Rabbi, dans les années 94 je crois, il a tout jeté. J'ai revu le lendemain, plus de barbe, plus de kippa, plus rien. Il avait cru, il a été déçu. Donc il y a des moments dans la vie où malheureusement, comme on l'a vu avec le Covid-19, où tout le monde était persuadé il y a 3 ans que Béhémet, pendant ce Pessah-là, c'était le Pessah de la Géoula, il n'y a pas eu. Et hop, ça a rechuté. On a vu que depuis le 7 octobre, énormément de gens ont remis les tefilines, les femmes, la tzniout, la kashrout, la nida. Beaucoup de gens ont pris sur eux beaucoup de mitzvot, puis on voit que le temps il repasse et c'est dur de tenir. On a envie de dire à Dieu, allez, c'est trop long ton histoire, c'est trop long. Allez, on tient, on tient, on tient, mais Dieu c'est dur, tu demandes de rentrer dans l'eau et de sortir sec. Non, non, quand on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la vie déjà elle est très très dure, très très compliquée, de rester le Shabbat à la maison pendant des heures et des heures entières à ne rien faire, ça tu peux pas, ça tu prends pas, ça tu dis pas, ça tu fais pas. C'est compliqué, Hachem. Allez, avoir quelque chose de nouveau. On a besoin un peu d'adrénaline. Cette semaine, on travaille tellement dur. Alors, il faut comprendre cette génération. Cette génération-là où tout va tellement vite. où tout est basé sur de l'adrénaline, quitte à en risquer nos vies. Regardez les tsarénois arabes, de quoi les gens sont faits aujourd'hui. Les voitures qui vont extrêmement vite, les jeux qui sont de plus en plus risqués, les investissements. Tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas d'oseille, tu n'es rien. C'est compliqué. Il y a de plus en plus de pathologies. J'étais en train, hier soir, je vous fais part un petit peu, d'étudier un sujet qui me prenait à cœur. C'était un compte rendu des psychologues. Donc ici, là, comme ça, sur mon ordinateur, j'étais en train de voir les comptes rendus des psychologues qui disaient que bizarrement, les maladies... Alors d'un côté, on a plus de médicaments qu'avant, mais bizarrement, ils disaient que avant, on trouvait 1 sur 10, maintenant, on trouve 3 sur 10. Il y a une augmentation des pathologies. Comme par exemple, les pervers narcissiques, avant, on trouvait 1 sur 20, 2 sur 20, allez, donc 1 sur 10. Aujourd'hui, on est déjà, selon beaucoup de thérapeutes, à une moyenne de 2 à 3 sur 10. C'est fou. Les choses augmentent. Ça veut dire qu'il y a un mal de vivre. Donc, il faut comprendre, quand on veut ramener quelqu'un à la Torah, qu'est-ce qu'il en a éloigné ? Moi, j'ai connu, pas aujourd'hui, il y a plus de 20 ans en arrière, quelqu'un qui a quitté la Torah parce qu'en rentrant à la synagogue un Shabbat, le rav lui a rentré dedans. Donc, c'était un rav qui était un peu fatigué ce jour-là, le pauvre. Mais j'ai eu des témoignages qui ont confirmé et qui lui a dit, tu vas à la plage de Shabbat l'après-midi et tu oses venir à la Beth Knesset le matin. Il a fait le néder de ne plus jamais mettre les pieds dans une synagogue. Alors, après, il faut parler à cette personne, lui dire que ce rave, il a essayé de le réveiller, il s'y est mal pris, c'était pas le moment, c'était pas en public de le faire. Il y a des erreurs qui peuvent être commises. Moi, je connais aussi des gens qui étaient très religieux et qui ne connaissaient pas comment ça se passe au niveau du Beit Din. Le Dayan, il doit être dur, il doit être intransigeant. Il ne doit pas regarder ni l'un ni l'autre, ni les peines, ni les raisons. Il doit être objectif. Et il y a des gens qui vont quitter la Torah en disant quoi ? C'est ça la Torah ? J'ai même pas pu m'exprimer, j'ai pas pu m'expliquer, j'ai pas pu... Peut-être que c'est vrai, c'est faux, je rentre pas dans les détails. De savoir qu'un Dayan, il doit rester vraiment impartial. Il n'a pas le droit d'avoir de peine. Un Dayan, un juge au Beit Din, n'a pas le droit d'avoir de peine. Après son psaque, il peut avoir de la peine. Mais pendant le... Il doit être rigide. Bien sûr qu'il doit écouter les deux sons de cloche. C'est obligé, sinon c'est pas un jugement. Mais combien de gens peuvent être déçus, en recul ? Tu parles de Torah ? Je veux plus. Si c'est ça la Torah, je veux pas. Si c'est ça, la Torah d'abord, elle n'est pas là pour te plaire. Et sache une chose. C'est pas parce que tu as été déçu d'une personne que tu mets tout le monde dans le même lot. On a trouvé un rabbin qui a volé un peu d'argent, tous les rabbins sont des voleurs. On a trouvé un rabbin qui aimait les enfants, tous les rabbins sont des voleurs, sont des pédophiles, et ainsi de suite. Chas v'shalom, il y a du bon et du mauvais partout. On peut trouver une exception à la règle, mais ça ne veut pas dire que c'est la règle générale de tout le monde. Donc il faut comprendre, qu'est-ce qui a éloigné ? Moi je connais une personne encore, Baruch Hashem dans mes connaissances, qui s'est éloigné de la Torah. Mais pourquoi ? Il est tombé fou amoureux d'une non-juive, mais fou. Fou amoureux, c'est un point inexplicable. L'oyéouman, il peut pas. Il peut pas vivre sans elle, il peut pas vivre sans son regard. Il faut comprendre que, en réalité, ça peut venir de plusieurs pôles. À partir du moment où tu connais la source de la raison pour laquelle cette personne s'est éloignée, ça peut être tout simplement dû à l'assimilation. Ou tout simplement qu'un jour, il a essayé d'écouter la Torah, il n'a pas accroché. Pour lui, la Torah ne lui parle pas. Il préfère la philosophie, il préfère le bouddhisme, tout ça spirituel, mais en réalité, qui ne va pas engager la personne à quoi que ce soit, parce que la Torah t'engage à tellement de responsabilités que c'est compliqué d'être quelqu'un de pieux, surtout en 2024 de l'ère vulgaire, où tout est tellement moderne que chapeau melon et bottes de cuir, il fait un peu ancien, quoi. On n'a pas envie de l'écouter. Ça se respecte. Et puis, bien sûr, la cause première, c'est les clipotes. Tout ce qui nous éloigne de la Torah, hormis le mal de vivre, les crises d'adolescence, la mode extérieure, il y a de l'influence. Il y a surtout aussi autre chose, c'est les clipotes. Les clipotes qui sont tellement nombreuses. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les réseaux sociaux peuvent emmener des gens à l'extrême opposé. Aujourd'hui, on m'a raconté récemment que les tsarénois arabes, que Dieu nous protège, j'ai déjà eu des cas ici, mais dans les réseaux sociaux, on parle de plus en plus du libertinage. Que c'est quelque chose... Il y a même des émissions, à ce qui paraît en France et aux États-Unis, où on pousse les gens à comprendre que le libertinage, c'est tout à fait moral, tout à fait acceptable, qu'il faut arrêter d'être fermé, il faut avoir un horizon ouvert, il faut être quelqu'un d'ouvert. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc bientôt, on va vous dire, tu peux tout à fait voler une personne, et la personne n'a plus le droit de porter plainte contre toi, qui est un voleur qui lui a volé l'argent de sa caisse, parce qu'il faut avoir un esprit ouvert. Ah non, là tu touches à ma poche. c'est important pour toi. Mais des choses tellement débiles pour nous, parce que nous vient d'une génération normale avant celle-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre enfant de 16 ans, 14 ans, 18 ans, quand il voit ça une fois, deux fois, trois fois, vous savez, avec ce fameux doigt qui ne cesse de glisser sur des vidéos courtes ou longues, qui ne cesse de glisser, mais toute la journée, c'est de la hasbana qui lui rentre dans la tête. Ça devient une normalisation. Il faut accepter tout le monde, il faut juger personne, il faut être large d'esprit, il faut faire ceci. Fais ça pour le code de la route. Essaie de faire ça pour le code de la route. Il y a un feu rouge, passe. Tu sais pourquoi? Je fais ce que je veux, c'est des hommes qui les ont mis ces feux rouges, moi je suis pas d'accord avec eux. Bah, t'as un retrait de permis, t'as des points, tu peux faire de la prison, tu peux provoquer un accident, tuer quelqu'un. Pourquoi tu réagis pas? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Il y a des règles, il y a des lois. Bah, parce que j'ai peur de l'accident, parce que si je le fais pas, je sais pas ce qui peut venir en contrepartie. Et aujourd'hui, dans tout ce qui touche à la vie sociale, tout est ouvert. Tout est ouvert. Tu peux quitter qui tu veux, tu peux frapper qui tu veux, tu peux mentir sur qui tu veux, tu peux même vendre sur les réseaux sociaux du mensonge pur et net, à un tel point que quand il y a des vidéos qui sortent pour dire « Regardez cette grossesse de grand-mère », vous avez des spécialistes, des médecins et des professeurs qui disent « Surtout ne faites pas ça, ça va vous emmener des complications médicales et santé. » Et tout le monde accepte, et tout le monde fait, et tout le monde prend. Parce qu'on n'arrive même plus à penser, on n'arrive même plus à être logique, on n'est même plus capable d'écouter une génération qui, eux, était beaucoup plus heureux que nous, ceux de nos grands-parents. Eux, ils étaient beaucoup plus heureux que nous. Ils n'avaient pas ce qu'on avait. Et j'ai fait un cours sur ce sujet que je vous demande de regarder. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem et Barar, quand je sais pourquoi cette personne s'est assimilée, pourquoi cette personne est partie loin. Encore un cas que j'ai eu d'une femme juive, que Dieu la bénisse. Et malheureusement, cette femme s'est mariée dans un mariage mixte avec un non-juif. Et elle aime la Torah. Et elle aime les mitzvot. Et quand je lui ai posé la question... Qu'est-ce qui t'a fait faire un pas aussi grave que celui que tu as fait? Elle m'a dit, j'étais avec un juif qui m'a fait tellement de mal que... C'est bon. Qu'est-ce qui t'a fait comme mal? Elle m'a expliqué. Je lui ai dit, écoute, personne ne peut te juger. Mais c'était pas une raison d'agir en conséquence. Elle m'a dit, je reste attaché au mitzvot, je reste attaché à la Torah. Ça, c'est la pire des assimilations quelque part, parce que tu tiens d'un côté la bonne conscience de pratiquer de la Torah et des mitzvot, de l'autre côté, tu t'es complètement assimilé au niveau de ton âme, tu t'es retranché du peuple d'Israël parce que c'est un mariage mixte. Et que tu perds ton monde futur, et tu perds, et tu perds, et tu perds, et tu perds, malgré tout. Mais le désespoir n'existe pas. La reine, pour conclure, je voudrais vous dire une chose. Si vous voulez ramener quelqu'un, la meilleure façon de le faire, selon moi, maintenant ce que je dis, c'est en mon nom, mais de mes études, mais c'est quand même en mon nom. La première règle, c'est de montrer que dans ta Torah et dans ton judaïsme, tu es hyper heureux de le vivre. Rabbeinu, Rabbi Nachman, il interdisait de mettre des photos de rabbanim, des dessins de rabbanim qui étaient tristes. Il disait tout simplement, quand tu es non religieux, que tu vois des têtes de rabbanim, la tête en bas, qui ne sont pas souriants, ben, tu n'as pas envie de faire teshuva. Moi, j'ai envie de voir des gens qui s'éclatent, des gens heureux, des gens qui expriment que la Torah, c'est de la joie. Yivdou at Hashem besimcha. La première règle, si tu veux ramener des gens, c'est de montrer que tu es heureux. Ça m'a l'air de le vivre. Quand tu vois quelqu'un, il dit, oh, Baruch Hashem, Shabbat, ça rentre. Il est heureux. Pas, il regarde sa montre toutes les deux secondes. Ça sort, c'est long. Je m'ennuie. J'en peux plus. Je retourne dormir. Ben, attends, moi, je préfère voir un film. Je suis tranquille. Je suis bien. Moi, je suis plus heureux dans la Touma, dans l'interdit, que toi, dans le permis. Mais la reine, il est impératif de s'organiser pour avoir des fêtes qui soient joyeuses, avec des questions-réponses, avec des shiurim, avec des heures précises, la prière avec des heures précises. Une petite sieste, étudier avec son épouse, avec ses enfants, faire un petit tour. Organise-toi quand c'est long, de telle façon à ce que chaque moment soit un moment profitable et heureux. Première chose, tu veux que quelqu'un y vienne. Moi, par exemple, je ne suis pas religieux dans l'exemple que je prends, ok? Mais je m'éclate, je vais à Ibiza, j'ai une super voiture, je vais ceci, je vais cela, je vais m'éclater. Et je vois le religieux qui fait ses Torah mitzvot, mais il a une tronche de Tchabéav. Est-ce que j'aurais envie d'être lui? Non. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être moi-même. Je suis bien comme ça, laisse-moi tranquille. Première règle. Montre que la Torah est capable de rendre aussi heureux qu'une boîte de nuit à faire danser les gens. Ne l'oubliez pas. Deuxième règle. Que ça te rende meilleur. Que ça te rende meilleur. Quand tu vois quelqu'un qui était nerveux, pathétique, critique, vulgaire, et puis depuis qu'il a fait tchouva, Depuis qu'il est dans la Torah, il est devenu patient, sage, agréable, social. Il remonte tout le monde au lieu de les critiquer. Il trouve toujours des phrases, des sujets intéressants. On voit qu'il est devenu meilleur. Alors on a envie d'être toi. Quelle femme non religieuse ne rêverait pas d'avoir un mari qui ferait tchouva, donc qui ne lui correspond plus, mais qui est devenu meilleur, plus intéressant, plus raffiné, que maintenant il comprend la valeur de la parole, comprend la valeur du regard, que ses charrettes ne blessent plus, qu'elles sont contrôlées. Si ce que tu fais te rend meilleur, tout le monde y viendra pour goûter ce miel. Et la troisième chose, si vous voulez ramener quelqu'un à la Torah, soyez tout simplement intéressant. Le mot paraît léger. Moi, comment Rabbi Moshe Deri, mon rave, m'a fait faire tchouva? Il m'a jamais dit d'abord quoi que ce soit d'interdit. Je me rappelle, je lui ai même dit, c'est grave de faire ça. Il m'a dit, il faut être un professionnel pour fauter. Il avait beaucoup d'humour. Mais je me rappellerai toute ma vie de ces histoires qu'il racontait à table. Il ne nous racontait pas la Torah. Il nous racontait des histoires qui, en réalité, étaient toutes de la Torah, mais il les racontait comme un film. Quand tu viens à table et que tu racontes une histoire qui ne va pas t'engager forcément à ce qui est permis ou interdit, mais des histoires qui parlent de notre peuple, de notre judaïsme, Rabbi Nachman écrit que justement la Géoula viendra par le biais des récits de nos Chachamim. De raconter une histoire, tu parles des Tunisiens. Tu te rappelles, il y a eu un rave qui s'appelait comme ça et comme ça. Ah oui, raconte-moi, ça m'intéresse. Avec du suspense, comment il s'en est sorti, ainsi de suite. Qui peut mener à des débats sur lesquels on glisse après dans les halachot, dans la Torah. D'être intéressant au niveau de tes enseignements. Si tu veux prendre la parole en tant que religieux et que tu as des non-religieux à table, alors prépare quelque chose de beau. Début de l'histoire, suspense, la chute. Court, concis et intéressant. Et tu verras, et c'est ce que je vous dis, je l'ai vu à maintes reprises, que d'afka ceux qui vont te demander de parler de Torah, ce sont les plus éloignés. Parce que ce que tu dis est intéressant. Mais là, si tu prends, commence le livre, tu commences pendant... Alors il y a marqué un parasha la semaine que alors celui qui a la lèpre, il allait chez le Cohen. Alors si c'était noir, c'était pur. Si c'était jaune, c'était pas pur. Le mec, il n'a rien à faire de tes histoires. Il comprend pas de quoi tu parles. Pourquoi du noir, ce serait pur et le jaune, ce serait impur. Et pourquoi c'est le Cohen qui n'est pas médecin qui s'en occupe. Donc ce n'était pas des histoires à raconter, des réponses à donner. Mais tu écoute, aujourd'hui, on n'a pas cette lèpre. Il m'a dit qu'il n'existe plus. Il n'y a pas de bêta-migdash. Sois intéressant. Sois intéressant. Il y a beaucoup d'histoires sur ce domaine, c'est pour ça qu'il y a des livres, comme que je conseille vivement, qu'a écrit un très bon livre sur la parole à chaque semaine, que je conseille vivement, c'est... j'ai oublié son nom, c'est 5 livres. Bon, vous avez le Midrash Raconte, qui est très connu, avec des histoires, des paraboles, qui sont sympathiques. Leket Eliyahu, du Rav Elul Hassan, très 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 conseillé. Dedans, vous avez non seulement la paracha, mais tellement de belles histoires à communiquer, c'est magnifique. Vous avez des histoires sur les réseaux sociaux, vous avez des cours de 5-6 minutes. Moi-même, j'enregistre tous les vendredis la paracha en 7, 8, 9, 10 minutes, en condensé avec une histoire très souvent, début, fin, une moralité, quelque chose de pur. Si vous avez ces trois choses-là à présenter à n'importe quelle personne qui est loin, je ne dis pas qu'il va faire tchouva, mais je peux vous promettre qu'il aura au moins l'oreille tendue à écouter. Déjà à faire le pas de se dire, tiens, j'ai bien aimé, c'était intéressant. Et au fur et à mesure, à l'image du marteau-piqueur, casser les clipotes qui l'ont complètement aveuglé dans une assimilation où il n'est même plus capable de percevoir l'extraordinaire lumière de la Torah. Parce que si on n'a pas cela, comment on peut représenter quelque chose à vendre à l'autre alors que nous-mêmes, on n'est pas dedans. Vivre la Torah sans joie, vivre la Torah sans s'améliorer et vivre la Torah sans qu'elle soit intéressante, ben c'est tout sauf de la Torah. Parce que la Torah, c'est tout ça. La question, ce n'est pas de le savoir, mais de le vivre. Alors avant de ramener quelqu'un à la connaissance de la Torah et à lui faire vivre cette Torah, d'abord, il faut que celui qui soit le personnage qui le vit ou qui le fait, eh bien, soit capable de le vivre lui-même. Quand on veut vendre quelque chose, il faut être soi-même persuadé de ce que l'on vend. Et pour finir, les Juifs ont du cœur. Tout le monde le sait. Le conseil que j'aimerais vous donner personnellement, si vous voulez vraiment ramener quelqu'un à la Torah, c'est parler à son cœur. Pas parler à son cerveau, parler à son cœur. Parler juste à son cœur. Peut-être que les résultats ne viendront pas directement ou indirectement, mais il y en a un qui a prouvé que c'était possible. C'était le Rabbi Lubavitch. Quand il prenait la parole, il parlait au cœur de chaque juif. Alors les gens disaient, oui, mais vous savez, Rabbi, je ne parle pas à toi, je parle à ton cœur. Pourquoi ? Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Encore beaucoup de choses à dire. Priez bien sûr pour qu'il fasse teshuvah, donner de la tzedaka pour qu'il fasse teshuvah, jeûner pour qu'il fasse teshuvah. Il y a plein de choses à dire. Acquérir du mérite dans le ciel pour demander que cette personne fasse teshuvah. On a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que cette recette est déjà très puissante. Et si on n'a pas réussi de toute façon, n'oublions pas le cinquième vers, que là où tu ne pourras pas toi réussir, il y en a un qui réussira. C'est le prophète Eliyahu HaNavi, Zachou Letov, et la Géoula elle-même qui s'occupera de le ramener. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen.